80% des territoires en Occitanie sont en tension médicale, s'inquiète Vincent Boone, vice-président de la région Occitanie en charge de la santé. Notre invité ce matin partage cette inquiétude. Bonjour Charles Moll.
Bonjour Isabelle Duché.
Vous avez fondé l'antenne de la Haute-Garonne de l'ACCDM, l'Association des citoyens contre les déserts médicaux. Qu'entendez-vous par cette expression de déserts médicaux ?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, la santé est un bien reconnu par la Constitution. Et donc il est normal que les citoyens constatant un écart entre la réalité et la Constitution s'en occupent. Et donc c'est une association qui a une vocation à regrouper tous les citoyens qui désirent que la santé soit reprise en compte à son juste niveau.
Et dans la notion de déserts médicaux, qu'est-ce que ça inclut ? Qu'est-ce que ça englobe ?
Alors, un critère qui semble être partagé pour définir un désert médical, c'est le taux de patients par médecin. Donc, en dessous de 1000 patients par médecin, on n'est pas en désert médical. Au-dessus, on y est. Voilà. Et on peut considérer qu'il y a des parties de la France qui sont à 1 à 500 patients par médecin et que d'autres sont à 2500 patients par médecin. Voilà. Donc il y a
une mauvaise
un manque de médecins et en plus aggravé par une répartition qui n'est pas tout à fait équitable.
Selon le Césaire Occitanie, 50% des habitants de notre région connaissent des difficultés d'accès aux soins, avec 80% des communes concernées. En quoi Toulouse, qui est pourtant la quatrième ville la plus peuplée de France, est-elle touchée par ce phénomène ?
Toulouse présente des caractéristiques nationales, mais aussi locales. On a un tiers des médecins d'Occitanie qui ont plus de 60 ans. Ce qui fait que si on forme, selon le flux actuel, 300 médecins par an, il en part 400 à la retraite par an. C'est-à-dire que déjà, on a un déficit de 100 médecins. Ça commence à compter. Mais à cela s'ajoute un vieillissement de la population et aussi un accroissement assez important, voire très important, de la population. Donc, entre 2013 et 2020, je crois qu'on est à plus de 17 000 par an d'habitants. Donc on a trois facteurs là qui se conjuguent et qui font qu'on a un début de généralisation de médecins qui ne prennent plus de patients parce qu'ils sont
au bord
du burn-out. Et alors, on a fait des initiatives sur les marchés. Par exemple, le dernier en date, c'est à la Cartoucherie, quartier emblématique de Toulouse. C'est un nouveau quartier, co-quartier, tout ce qu'on veut. Et bien, beaucoup de gens nous ont dit il n'y a plus de prise de patients dans ce nouveau quartier.
Oui, c'est ça.
Et alors, on a des trucs assez symptomatiques. On a eu une étudiante qui dit « Moi, je suis issu de l'Ariège, j'ai gardé mon médecin en Ariège. » Bon, ça fait un peu... une jeune en bonne santé, ça ira bien, mais dès qu'il y a des problèmes un peu importants, c'est pas raisonnable.
Non, c'est pas raisonnable. Le président de SOS Médecins à Toulouse, Cyril Chaugne, disait sur l'antenne de France Bleu Occitanie le 5 décembre 2023 qu'il n'y aurait pas de mieux avant 2035, parce qu'il comptait le départ de 9 médecins du centre de la ville qui ne seraient pas remplacés.
Oui, si on continue à être sur le même vélo, à la même vitesse, on n'est pas prêt d'y arriver, de 2035. Mais je pense qu'à un moment donné, dans une situation de crise, il faut prendre des mesures de crise. Et sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut déjà constater que nos médecins ont 20% de leur temps de travail bloqué sur des tâches administratives. Il faut essayer de créer les moyens pour que ces médecins-là, et qui accepteraient de le faire, travaillent en commun, avec une assistance pluridisciplinaire qui fait que ces 20%-là sont dans des coins, même sur Toulouse, même sur Tournefeuille, sur Blagnac, je peux multiplier les villes, on aurait déjà 20% de médecins en plus.
Mais ça se fait déjà dans des maisons médicales qui sont créées dans des petites villes.
C'est trop faible.
C'est trop faible.
C'est trop faible. On perd du temps, on lambine, on cherche des locaux, on peine.
Et puis la mairie doit aussi investir, souvent.
Et la mairie peut investir, mais elle peut surtout être un accélérateur. Ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le reconnaître. Mon but n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais c'est de créer la dynamique pour qu'on puisse dire, allez, tout ce qui freine, voyons voir si c'est justifié. On a sur Toulouse un comité de quartier qui se du côté d'Arnaud Bernard qui demande à ce que la cité administrative qui a été libérée soit utilisée à un centre médical. C'est une bonne idée, allons-y. Demandons rapidement à l'État une rétrocession de ses bâtiments. La ville de Toulouse n'a pas qu'un bâtiment à libérer. On peut espérer que dans d'autres quartiers où la tension est vive, on puisse y porter une attention plus soutenue. Je crois qu'il faut arrêter avec les discours lénifiants, on s'en occupe, vous inquiétez pas, et les statistiques, parce qu'on peut tous se balancer des statistiques à la figure. Moi, je dis que les statistiques, c'est comme la mini-jupe. Ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel.
Quelle belle
comparaison. En particulier, moi, j'ai pas trouvé une carte de la Haute-Garonne et d'Occitanie donnant les zones où les médecins ne prennent plus de patients.
Ah oui.
C'est quand même le minimum. Moi, je veux bien apprendre des petits détails à 2,5% et tout ça, mais ça, je voudrais le savoir.
Et ça rendrait grand service.
Voilà, et on aurait les moyens de dire, bon, voilà notre zone d'action, voilà où et qu'est-ce qu'on peut faire. On ne va pas jeter la pierre à l'un, à l'autre, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de trouver une solution.
Et justement, vous voulez vous proposer avec l'Association des citoyens contre les déserts médicaux de réguler l'exercice médical pour répartir les médecins sur tout le territoire français avec une priorité dans les déserts médicaux. Comment cela va-t-il fonctionner, Charles Moll?
Si cette loi qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui mériterait quand même d'être au moins débattue.
Donc le projet de loi du 27 décembre 2023.
Non, le projet de loi transpartisan.
Transpartisan.
Il y a eu une tentative de contre-feu avec la loi du 27 décembre 2023 qui, justement, n'a pas du tout pris en considération cet aspect. On est en période de crise. Il serait sain de proposer qu'une nouvelle installation de médecins donc nouveau, soit régulé par l'ARS, et elle soit régulée comme elle l'est pour les pharmacies, pour les infirmiers, comme pour les dentistes, et ainsi de suite, et pour, en fonction des besoins de la nation.
Donc ça, c'est le projet de cette loi transpartisane.
Et elle permet, notre proposition de loi, permet aussi à un nouveau médecin de venir combler un départ à la retraite. Pas seulement pour les déserts médicaux totaux, il y a aussi pour les déserts médicaux en formation et en développement. Il faut éviter de prendre l'eau pour toute part. Voilà, ça, donc, cette mesure, il ne faut pas la nier, coercitive, mais c'est une période de crise. Et on peut aussi, assez rapidement quand même, se donner les moyens de développer une formation dans des zones. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait un grand professeur corse. Elle s'est battue, elle a créé les deux premières années de médecine à l'université de Corte. Eh bien, la Corse ne se plaint pas trop des déserts médicaux. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, si on fait des unités dans les déserts médicaux, c'est possible.
Donc les médecins qui sont en formation vont finalement rester là où ils ont été formés.
Voilà, il y a des belles filles dans le coin, il y a des beaux garçons, et on peut penser qu'ils trouveront l'âme sœur et ça permettra de faciliter les choses. On le voit bien, hein, quand il y a une école, l'école nationale de l'aviation civile est venue à Toulouse, les gens ont voulu rester à Toulouse, alors que si vous créez des liens, parce qu'en France il fait bon vivre quand même, hein, oui. Faut pas...
Il y a aussi la question, Charles Moll, des médecins remplaçants, parce que selon l'Association des citoyens contre les déserts médicaux, vous dites que 13 000 médecins seraient exclusivement remplaçants en France, donc ça équivaut à environ 130 médecins par département. Quelles sont vos préconisations?
Il faut leur permettre de s'installer. Et il faut les solliciter pour qu'ils s'installent justement là où ils seraient le plus utiles. Il n'est pas raisonnable que certains médecins soient être salariés. Je les comprends et c'est compréhensible. Il y a des structures, des centres de santé, par exemple, qui permettent à ces médecins d'être salariés. Et il faut donc justement là que nos mairies et nos élus créent les conditions afin que ces médecins trouvent un poste de salarié. S'ils le souhaitent, c'est tant mieux.
Et ça éviterait d'avoir tous ces remplacements.
Voilà, parce que c'est pas équilibrant. Une personne qui va chez un médecin qui, tous les 6 mois, ne serait-ce que tous les 6 mois, et qui trouve à chaque fois un remplaçant, on a l'impression que le suivi demande à être amélioré.
Il y a aussi cette question du contrat d'engagement de service public qui est une allocation de 1 200 € brut par mois en échange d'exercice en zone sous-dotée pendant au moins 2 ans. Ce contrat avait été créé en 2009, il avait été supprimé en 2019 pour les étudiants en deuxième et troisième année de médecine. Quelle solution envisagez-vous, Charles Moll, pour remédier à ce manque?
Nous, on constate que les nouveaux médecins sont souvent issus du milieu médical. On s'en réjouit parce qu'on manque de médecins. On ne va pas dire qu'on en a trop de ces jeunes médecins. Mais on considère qu'il faut augmenter la part de l'ouverture sur la population, la création de médecins. Et donc on pense qu'il faut aller dans les déserts médicaux pour créer des structures incitant les étudiants, parce qu'il y a il y a des bons étudiants dans ces déserts, et donc suggérer qu'ils leur donner envie et le courage d'être médecin. Et on peut, pour les plus pauvres, financer une partie des études en contrepartie d'un service public de quelques années. Voilà.
Donc un système de bourse, finalement.
Voilà, c'est une sorte de soutien, de bourse. Et il n'y a pas de raison de s'en priver. On risque. Il faut faire flèche de tout bois. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut éviter aussi de faire en sorte que les territoires rentrent en guerre, en commune, pour se piquer des médecins. Tout c'est catastrophique, ça. C'est pas raisonnable. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un médecin doit quitter son poste, on lui demande 6 mois de préavis, et puis on demande à ne pas financer des médecins qui n'auraient pas fait 10 ans dans leur poste. Il faut stabiliser quand même et surtout éviter cette surenchère qui est absolument négative, quoi.
Mais toutes les propositions que vous faites, finalement, c'est des propositions qui ont été faites dans ce projet de loi du 27 décembre 2023. Et finalement, là, aujourd'hui, au mois de mai 2024, on n'a pas avancé.
Moi, je n'ai pas vu d'avancée réelle. C'était un truc à minima, on va dire. Le minima n'est pas appliqué. Donc, il y a peut-être de l'argent aussi qui est dépensé. J'allais dire, vous avez un vieux tuyau d'eau percé, vous mettez beaucoup d'énergie à mettre des rustines, mais de changer le tuyau, ça permettrait peut-être de faire des économies.
Oui.
Alors, je pense qu'il faut aussi savoir ce que coûte le rafistolage d'un système qui ne fonctionne plus.
En tout cas, c'est toutes les propositions que vous faites avec l'Association des citoyens contre les déserts médicaux et un certain nombre de mobilisations que vous proposez dans la région pour essayer de fédérer un maximum d'adhérents et puis pour faire entendre les citoyens, la voix des citoyens sur cette problématique des déserts médicaux. Merci beaucoup, Charles Moll.
Eh ben, je vous remercie de m'avoir accueilli.
Avec joie.